Bonjour.
Bonjour.
Ton prénom ?
Je m'appelle Alexis.
Alors Alexis, la question, c'est quoi ton film préféré ?
Eh ben en fait, ça sera pas forcément mon film préféré, mais ça sera un coup de cœur. Je vais parler de Jojo Rabbit de Taika Waititi.
Ah la vache ! On l'a pas eu encore celui-là. Alors vas-y. On t'écoute, ça parle de quoi ?
Alors Taika Waititi, ça raconte l'histoire d'un enfant qui grandit dans la jeunesse hitlérienne et qui a pour ami imaginaire Adolf Hitler.
Ah ouais, c'est très ça.
Et en fait, d'accord, sur ce postulat-là, en fait, c'est un film absurde par le fameux Taika Waititi à qui l'on doit Thor Ragnarok chez Marvel, et qui propose une comédie vraiment captivante. Déjà, c'est super drôle et du coup, on s'accroche au personnage. Et en fait, j'aime bien sa façon d'utiliser l'humour comme passerelle vers l'histoire. Comment en fait, il dénonce des réalités historiques via l'absurde. Et du coup, ce qui fait que le film propose des ruptures de ton qui sont incroyables. Et en fait, le film nous surprend par ses contrastes, et etc., par ce qu'on voit et par rapport au ton du film en général. Et du coup, c'est un film qui est ultra prenant, ultra touchant, et que je conseille vraiment à tous de voir parce que, voilà, en plus, il ne dure qu'une heure 40. Donc voilà.
Ah, c'est vrai que ça nous change de 3 heures de Captain America.
Totalement.
Eh bien, merci Alexis.
Merci à vous.
À la prochaine.
À la prochaine.
À tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma.
Hé, hey, c'est quoi le texte ?
Comment on dit déjà ?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir ?
Laisse tomber.
Graffiti Cinéma.
Graffiti Cinéma.
C'est parti. En direct du léger différé de rentrée en fête à Orléans.
Très léger.
On a la statue de Jeanne d'Arc
qui nous regarde.
Qui nous regarde et qui nous habille de son ombre bienveillante.
Heureusement.
Voilà. Alors, c'est le mois Stallone, comme vous l'avez entendu sur les trois précédentes émissions. Et là, on parle des films préférés de l'équipe de Stallone. Alors, Nico est là avec nous. Comment ça va, Nico ?
Ça va très bien.
Pas trop chaud ?
Un petit peu.
Un petit peu, mais on est bien à l'ombre quand même.
On est bien à l'ombre.
Alors, bon, question là. T'as brûle pour point là, c'est quoi ton film préféré du grand Sylvestre ?
Du grand Sly ? Eh ben moi, j'aimerais bien réhabiliter Demolition Man.
Ah.
On en a déjà parlé il y a quelques années dans l'émission, mais je trouve que ce film doit être revu avec... voilà, en quoi il est... Il est annonciateur de plein de choses et d'évolution de la société. La pudibonderie générale actuelle, je trouve qu'on la retrouve vraiment bien dans ce film. Le côté extrêmement aseptisé et...
Alors, pour recadrer un peu, Demolition Man, c'est quoi ?
Alors, c'est un policier qui se retrouve cryogénisé.
Ça fait mal, ça.
Voilà, c'est pas tous les jours qu'on dit ce mot. Et qui se réveille dans une société aseptisée, une société futuriste, où tout est encadré, extrêmement bien codifié. On n'a même plus le droit de dire un gros mot.
Ah, oui.
On n'a même plus
c'est drôle, ça.
La possibilité d'avoir des relations sexuelles. C'est en ça qui, alors c'est pas en ça qu'il est intéressant, il n'y a pas que ça dans le film, mais ce côté société extrêmement contrôlé.
Ça ressemble un peu à ce que a fait Carpenter après dans Los Angeles 2013, où le vœu du président c'est une société sans tabac. Où le mariage prime,
c'est
relations sexuelles interraciales.
C'est un peu comme si ces politiciens avaient eu la possibilité d'aller jusqu'au bout de leurs idées et sans s'arrêter, c'est-à-dire avoir les pires idées totalitaristes, ils les ont mis en application et ça donne une société extrêmement froide. Et enfantine, très étonnamment, ça infantilise les gens.
Oui.
Ils sont devenus tous complètement incapables de réfléchir par eux-mêmes.
Et surtout, dans le film, on voit qu'il y a une forte adhésion de la population. Alors évidemment, il y a une sorte de combat souterrain avec une population qui, elle, est reléguée et qui forcément n'accepte pas ça. Mais finalement, la population...
Elle adhère.
J'allais dire les classes moyennes.
Ouais. Elle adhère complètement au principe de cette société qui les contrôle de A à Z.
Ah.
Je ne sais pas. Ces derniers temps, je trouve que je n'ai pas grand-chose pour plaire.
Vous êtes quelqu'un d'incroyablement sensible. Vous inspirez des sentiments joyeux à tous ceux qui vous entourent.
Tire-toi de là.
Excusez-moi, citoyen. Je suis désolé.
Salutations, citoyen. Comment allez-vous en cette radieuse journée? Vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui.
C'est vrai, j'ai la pêche.
Angeles Réseau Information. Distribution automatique de mémoire. Ville de San Angeles.
Je suis possédé. Je peux peut-être aussi jouer de l'accordéon.
Code dossier accepté. Friendly Edgar, code classé 60. Délit répertorié, trouble de l'ordre public.
N'entendez-vous pas une voix qui martèle dans votre cerveau le nom de Friendly Edgar? Edgar Friendly. N'avez-vous pas une tâche à accomplir? N'avez-vous pas quelqu'un à tuer? Quelqu'un à tuer? Quelqu'un à tuer?
Dans leur quotidien du réveil, voilà. La culture est codifiée, les musiques. Ah oui, les musiques sont codifiées. On n'entend que des musiques infantiles, enfin des petites chansons pour enfants. Voilà, tout est extrêmement soft et voilà. Je leur habite vraiment. Je trouve que.
Alors qu'est-ce qui fait que justement, alors tu nous dis Stallone, il est cryogénisé. Il appartient lui au monde.
Au
monde décadent.
Voilà, au monde décadent, au monde des années 90, au monde de la violence et du coup de poing dans la figure.
C'est une sorte de flic un peu à la L'Arme Fatale.
Ouais, L'Arme Fatale ou à la même Eastwood aussi dans
l'inspecteur Harry.
L'inspecteur Harry ou John McClane ou voilà des personnages comme ça, des actionneurs
qui ont des méthodes
expéditives et brutales,
très borderline,
à
la limite de la loi,
voilà,
et qui on compte un petit peu ce qu'ils ont détruit, quoi.
Exactement.
Dans la ville, quoi.
Il est rappelé en fait. Alors bon, il y a une histoire de complot pour en fait aller encore plus loin dans ce côté aseptisé. On réveille un grand méchant. Qui est joué par Wesley Snipes.
Qui est le némésis de Stallone dans
qui a été lui aussi cryogénisé.
Voilà, qui est le némésis, donc qui est l'ennemi de Stallone avant d'être cryogénisé tous les deux.
Et donc on réveille Stallone pour arrêter ce méchant.
On le réveille parce que la société ne peut plus faire face.
Ne peut plus gérer
toute cette violence.
Ne connaît plus les codes, ne sait plus du tout comment réagir face à cette violence. Voilà, donc un film où je trouve qu'il faut réhabiliter et je trouve qu'actuellement, d'ailleurs, on en parle un petit peu sur les forums de ciné, les publications dans les revues, on réhabilite ce film. Je crois qu'il y a une édition 4K qui va bientôt sortir.
Alors, en parlant de ça, après, c'est une petite digression plutôt intéressante. Demolition Man, il fait partie des premiers films à être sortis en DVD, sur le support DVD. Hein, donc, c'est un film de 93, le support DVD, il arrive à peu près dans ces zones-là.
Est-ce qu'il a été réédité depuis? J'en ai aucune idée.
Les premiers, c'est au Japon. Il arrive. Effectivement. En plus, c'est un film quasiment unique pour le réalisateur qui n'a fait que ça.
Qui est complètement inconnu.
D'ailleurs, on est incapable. Est-ce qu'on est capable de citer son nom?
Incapable.
Là,
incapable.
Voilà. Là, vous voyez bien, c'est Marco Brambilla.
Et donc,
Marco Brambilla qui a fait deux films, Demolition Man et Destructed. Ne me demandez pas ce que c'est. Je pense que
à vérifier.
Personne ne l'a vu,
à vérifier.
Mais c'est ça. Et c'est étonnant parce que c'est encore l'époque où Stallone, là, il prend un risque quand même.
Oui, il prend un risque parce qu'il est un peu aussi dans la dérision. Il y a un peu un côté méta où il s'auto-parodie. Il y a des petites allusions à Schwarzenegger qui est devenu. Alors, je ne sais plus s'il l'annonce comme étant gouverneur ou président.
Je crois que c'est ça, oui.
Avant l'heure, quelque part. Il y a ce petit côté annonciateur de plein de choses. Et moi, je le trouve vraiment rigolo et en même temps assez terrifiant qu'en 93, si je ne dis, voilà, si je dis pas de bêtises, on puisse comme ça avoir déjà entrevu. Ça fait 30 ans. Entrevue déjà tout un pan de ce que peut devenir notre monde.
Et puis voilà. C'est l'époque où Stallone et Schwarzenegger, les deux gros
bras
mastodontes, quoi. Alors finalement, quand on regarde physiquement Stallone, il est quand même moins développé que Schwarzenegger.
Moins développé.
Et c'est la même époque où Schwarzenegger fait un flic à la maternelle. Commence à faire des commence à se parodier. Arrête où ma mère va tirer, ça va arriver.
Comédie,
ça arrive à ce moment-là. Donc ils ont tous les deux compris, ils ont senti aussi que le vent tournent aussi un peu et ce qui fait leur force, c'est de savoir à peu près où aller.
Et de trouver d'autres pans à leur jeu d'acteur et d'autres champs d'investigation.
Monsieur, recevez l'expression de mes salutations formelles. Oh.
Salut, ça va ?
Nous ne sommes pas habitués au contact physique quand nous nous saluons.
Oh,
brutal.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a plus de... Il n'y a plus de papier toilette.
Vous avez dit papier toilette ?
Oh, au XXe siècle, ils utilisaient des poignées de feuilles de papier pour ce que vous savez.
Je suis bien content que ça vous amuse, mais là où devait y avoir du papier toilette, il y a une sorte d'étagère avec trois coquillages dessus.
Il ne sait pas se servir des trois coquillages. Je conçois que ça puisse être déroutant.
C'est bien toi, Spartan ?
Non. Zach ? Zach Lamb ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pote ?
Ah, j'ai quelques années de plus.
C'est dingue. Je me souviens encore du petit jeune qui faisait ses débuts de pilote.
Ah, ils ont fini par m'interdire de vol.
Les cons ! T'es un sacré bon pilote !
Vous avez une amende de 2 crédits pour infraction au code de moralité du langage.
Bouge pas, je reviens.
Ils ont l'air amis, mais ils lui parlent de façon tellement grossière.
Si vous aviez lu ma thèse, vous sauriez que c'est ainsi que les mâles hétérosexuels anxieux se comportaient entre eux.
Je savais.
Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la mort moelleuse.
Une amende de 5 crédits pour infraction réputée au code de moralité du langage.
Plus besoin de coquillages. J'en ai pas pour longtemps.
Ah oui, pour reprendre ça, c'est aussi les débuts de Sandra Bullock.
Oui, complètement.
Très très drôle.
Qui est ingénue, qui ouais. Fait voilà, cette espèce de policière fan des années 80-90, qui elle annonce alors le côté geek du coup, ouais. Le côté rétro. Elle est complètement rétro sur des choses complètement anodines. Elle adore les musiques de pub des années 50, je crois, des années 50-60. Voilà, elle annonce aujourd'hui, enfin elle annonce un petit peu. Alors, c'est là où le film est encore intéressant, c'est voilà ce côté extrêmement rétro. Aujourd'hui, on collectionne tous des objets publicitaires des années 80. Enfin moi perso. Et on est tous fans des dessins animés de notre enfance. Elle annonce voilà ce côté passionné de ce qui a été. Voilà, on idéalise toujours. Voilà, avant c'était mieux. Bah elle est complètement là-dedans.
Elle est complètement là-dedans. Et ce qui est très drôle, c'est que le film fait de une nostalgie. Le film sort en 93 et fait des années 80 une sorte de période historique. Une sorte de
complètement
d'étude historique en se disant complètement. Ça devait être ça, ça devait être incroyable à l'époque.
Le film idéalise complètement cette période et tu as raison.
Alors que cette période-là, elle a à peine 5-6 ans.
Quelques années dans
quelques
le film.
Années après la sortie du film.
Et c'est là où il est génial le film. Il est vraiment génial. C'est ce côté.
Il annonce tous les films pop, méta.
Il est rétro avant de l'être, quoi. Et aujourd'hui, il pourrait sortir aujourd'hui.
Ouais.
Il pourrait sortir aujourd'hui, dirait. Enfin, il serait un peu plus classique aujourd'hui. Il serait moins novateur.
Exactement, c'est ça, puisqu'on est très habitué, on fait des parallèles avec Stranger Things par exemple, qui a mis les années 80 au nu.
Voilà, avec le retour des Space Fantômes, de toutes ces sagas.
Même de la série, dans la façon de l'idéaliser.
Et sauf que quand il est sorti à l'époque, on ne l'a pas compris comme ça. Moi, clairement, je ne l'ai pas compris comme ça. Le côté méta-rétro, on était trop proche, je ne l'ai pas vu. Et voilà,
c'était un film d'action cool.
Ouais, c'était un film d'action cool, rigolo. Et je l'ai pris que comme ça. Alors qu'en fait, après, on était en 93 et on n'avait pas encore, je trouve, cette société un peu puribonde.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas accès. L'Internet était un fantasme. Et là, on a accès à tout. C'est-à-dire que vous voulez regarder un film des années 80, un type des années 80,
en 3 clics.
Avant, il fallait aller dans des fanzines, il fallait aller dans des communautés de gens qui se connaissaient. Fallait y aller physiquement.
Fallait aller dans les vidéoclubs.
Dans les vidéoclubs, c'est ça.
Ça manque quelque part aujourd'hui. Hein, l'attente aussi, le côté je pourrais pas voir le film. On fantasme un peu le film, on en parle. Là, je l'ai toujours pas vu. Il faut vraiment que je le trouve. Aujourd'hui, en 3 clics, on a tout ce qu'on veut et on a accès à tout rapidement.
Alors, c'était Nico sur Demolition Man.
Oui.
Son film préféré de Stallone sur le mois.
Je cherche vraiment à réhabiliter, à remettre en avant.
Et tu as raison. Disponible. Alors, je pense qu'il est disponible
sur Netflix.
Je crois qu'en ce moment, c'est Netflix. Vous savez.
Ça tourne.
VOD, ça tourne tout le temps.
Ce sera Amazon dans 6 mois.
C'est toujours pas mal d'avoir une version physique chez vous. Vous pouvez toujours le voir quand vous voulez, le partager quand vous voulez. Après, il y a tellement de choses sur Netflix, vous pouvez toujours aller voir. Mais voilà, nous, on a un petit amour sur l'objet. Bon, voilà.
Sur l'objet physique.
Allez, à tout de suite. On est avec Juliette, on est sur notre, notre mois Stallone, notre mois spécial Stallone, et là on parle, comme
plus,
vous l'avez vu.
Je ne sais pas si tu as vu, oui. C'est la super actu, Stallone, il a rencontré le pape avec toute sa famille, là, aujourd'hui ou hier.
C'est pas possible.
On ne sait pas lequel des deux était le plus content. T'as pas vu cette...
le pape était tout sourire en voyant Stallone.
Stallone était tout content aussi.
La vache. Stallone est en train de devenir une sorte de Jean-Marie Bigard, donc. C'est ça que t'es en train de me dire. D'accord.
La viande ?
Oh non, non. Alors, c'est consternant. Alors, public, si vous écoutez, soyez consternés en même temps que nous. Mais on vous aime bien quand même. Alors, on revient à un autre sujet. On parle de Stallone. C'est le mois Stallone. Et là, on a décidé de faire un petit Stallone préféré. Notre film de Stallone préféré... Parmi tous les chroniqueurs, on a déjà eu, alors je sais pas à quel ordre vous verrez, ce sera une surprise pour les autres, on a déjà eu Demolition Man.
Un bon film doudou.
Voilà. Et toi Juliette, tu veux nous parler de quoi? Alors c'est quoi ton Stallone préféré?
Alors je sais pas vraiment si c'est mon préféré, mais c'est celui qu'il faut mettre en avant quoi. Parce que sinon moi j'ai un film doudou, hein, que j'en ai parlé dans les émissions précédentes, Tango et Cash.
On devine qu'il y a des lunettes là.
Voilà, c'est quand même un des buddy movies des années 80 absolument génialissime. Ouais. Mais quand même le meilleur Stallone pour moi c'est Rambo.
Rambo, alors pourquoi
Rambo? Parce que je trouve qu'il est très en avance sur son temps.
Ouais.
Parce qu'il parle du syndrome post-traumatique à l'époque où ça n'était pas à la mode quoi. Et il le fait de façon vraiment intelligente et ça me fait penser, alors le parallèle va vous surprendre,
mais vas-y surprends-moi.
C'est un film où on a envie de dire au héros mais vas-y bute-les quoi, il nous saoule quoi. Non mais c'est clair. Et tu vois, et ça me fait penser à, tu vois, la couleur pourpre. Quand Whoopi Goldberg va tondre, raser la barbe de Johnny Glover et qu'elle aiguise son couteau et tout.
Oui.
Et ça fait partie de ces films où tu as envie de lui dire, mais...
Fais-le.
Mais vas-y, on s'en fiche. Voilà, le gars, il vaut la peine que tu le fasses, quoi. C'est horrible, d'ailleurs, d'avoir ces sentiments, parce que...
Et du coup, on se découvre, Juliette, sous un jour qu'on n'imaginait pas vraiment. Une femme plutôt violente, quoi. Oui, voilà. C'est ça. C'est étonnant.
Chef de compagnie appelle Corbeau. Chef de compagnie à Corbeau. Réponds-moi, Johnny.
Groupe Baker, répondez au chef de compagnie. Rambo, Messner, Ortega, Coletta, Jorgensen, Danfort, Berry, Krakauer. Confirmé.
Ici le colonel Trotman. Réponds-moi, Johnny.
Repérez-le. Rambo, tu vas bien? Terminé.
Au Baker, ils sont tous morts, colonel.
Pas d'Elmar Berry. Il s'en est sorti.
Berry est mort lui aussi.
Comment?
Il s'est fait avoir au Vietnam, mais il n'en savait rien. Le cancer l'a bouffé jusqu'à l'os.
Je ne savais pas, je suis désolé.
Je suis le seul qui reste, quand même.
Ça me fait plaisir de t'entendre, Johnny. Ça fait longtemps.
Dis donc, John, tu as fait pas mal de dégâts. Il ne veut plus d'ennui ici.
Il est au nord-ouest.
C'est pour ça que je suis là. Je vais venir et je vais te faire sortir de là.
Juste toi et moi. On va régler ça ensemble. Ça me paraît loyal.
D'où venez-vous, colonel?
De Bragg.
J'ai essayé de vous joindre là-bas, mais les gars de Bragg ne savaient pas où vous trouver.
Oui, et bien dernièrement, je n'y ai pas passé beaucoup de temps. Ils m'ont envoyé à Washington, je fais reluire un siège sous mes fesses.
J'aimerais revenir à Bragg, colonel.
Vous allez en parler dès que tu seras montré.
Je peux pas faire ça, colonel.
Mais écoute, Johnny, nous ne pouvons pas te laisser attaquer des civils bienveillants.
C'est pas des civils bienveillants.
Je suis ton ami, Johnny. J'étais avec toi enfoncé jusqu'au genou dans le sang et les tripes. Je t'ai couvert plus d'une fois. J'ai l'impression que je passe ma vie à te sortir des ennuis.
J'aurais pas fait d'ennui à personne s'il n'y avait pas eu ce connard de flic.
Ce que je voulais, c'était manger quelque chose. Ce connard m'a emmerdé, colonel.
Mais t'as dû l'emmerder toi aussi, John.
Eux ont versé le premier sang, pas moi.
Écoute, Johnny.
Laisse-moi venir te chercher pour te sortir de là.
premier sang.
C'est ça, ouais. C'est ça que j'aime bien dans ces films, c'est que ça te pousse psychologiquement à être quelqu'un d'autre justement, à aller au-delà de ce que tu t'autoriserais à être en société. Mais clairement, on a envie de lui dire, c'est des blaireaux quoi.
Oui, ouais, c'est ça. Tu as raison quoi.
Tu as raison. Les gars, ils te poussent à bout. En plus, t'es quelqu'un qui est blessé, tu t'es battu pour ton pays et les mecs, ils te font chier alors qu'eux, ils sont restés tranquillous au chaud. Enfin, voilà, je suis désolée, je dis beaucoup de grossièreté.
Non, mais on est habitué. Hein. on te connaît, hein. Il n'y a pas de problème, hein, nous. On te connaît. Ouais,
mais bon, on passe quand même à la radio. Donc je m'excuse, il faudra mettre des bips probablement.
Oui, ouais, voilà, c'est ça.
mais ouais, c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est la psychologie intense, enfin l'intensité de la psychologie, tu te rends pas compte qu'elle est là en fait, tu la vis et t'es assis dans ton siège, tu peux plus bouger et tu regardes et t'as envie que ça finisse et t'es toujours surpris de la façon dont ça évolue en fait. Et je trouve que justement Stallone, puisque c'est quand même de lui dont il est question, il est super bien dans ce rôle et mieux que du coup dans les autres Rambo.
J'allais faire un petit aparté là-dessus. Tu nous conseilles pas les autres quoi.
Bah moi non, parce que après ça peut être un exultoire. Hein. Moi j'ai rien contre un film. Enfin voilà, moi Expendables le premier, j'aime bien justement qu'il tape tout le monde. C'est un peu le but du jeu, mais voilà, c'est pour moi c'est un bon rôle pour lui parce qu'il est en. On sent sa violence sourde en plus dans son physique aussi. C'est quelqu'un qui peut tabasser tout le monde, mais qui n'a pas envie de le faire. En fait.
C'est ça.
Et c'est ça que je préfère, en fait. J'aime bien quand les gens ils sont un peu à contre-pied.
Eh ben merci, Juliette, nickel.
Merci.
Bisous.
Bisous.
Some things are worth fighting for. Some feelings never die. I'm not asking for another chance. La mafia contrôle l'argent et la drogue dans leur district. Et tout le monde a droit à ses résidences. Figgis disait vrai. C'est la mafia qui tient cette ville. Glenn Tenney a été retrouvé mort dans sa cellule.
Ils ont classé l'affaire, Freddy. Si eux, ils ont manqué de cran...
C'est qu'il leur manquait des preuves.
Toi non plus, t'as rien. Tous ces documents, tu les as volés.
On est avec Thomas. Un petit temps pour nous parler de ton film favori de Sly, de Sylvester Stallone, dans le cadre de ce mois... Stallone, qui est à l'antenne sur Graffiti Cinéma. On est en direct du Mars. On n'est pas du tout en direct.
On est en
du Mars 3. On est en léger différé de 3 semaines du Mars 3 pour rentrer en fait.
Il fait très
Le forum des associations d'Orléans. Il fait très très chaud, il fait très très beau. On a à peu près 300 personnes dans le public. Public, bonjour.
Voilà
vous les bonjour, entendez pas, il n'y a pas de retour, mais voilà, ils sont bien là. Alors Thomas, tu nous parles de Sly, tu nous parles de ton film favori.
Alors, ça,
préféré.
C'est vrai que ça va pas casser des briques, ça va pas être nouveau, mais. Je crois que celui qui a marqué tout le monde en même temps.
Arrête ou ma mère va tirer.
Ah
non, pas du tout.
Ouais, alors j'aurais bien aimé que ce fût celui-là. Ça sera un grand classique, ça sera Rambo.
Rambo.
Plus que Rocky.
Ah, il y a toujours des débats.
Oui, plus que Rocky, il y a toujours un débat entre Rocky et Rambo.
Alors,
je pense
Rambo
que d'autres nous parleront de Copland, mais moi Rambo, il a la mauvaise image, le premier film de toutes ses suites. Qui sont pas vraiment du tout dans l'esprit
du premier
film. Rambo, on en a parlé dans l'émission numéro 2. Mais là, voilà, moi je.
On peut prendre un peu plus de temps.
J'ai une vraie affection pour le film parce que c'est pas du tout un film de bourrin. C'est un film beaucoup plus fin qu'on veut bien le croire.
Ou dont on se remémore.
C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que quand on parle de Rambo, tout le monde a une image.
Bandana rouge dans les cheveux avec deux mitraillettes et un bazooka.
Exactement ça. Alors que Rambo, c'est pas ça. C'est un mec qui est parti au Vietnam parce qu'on lui a dit de partir au Vietnam. C'est un mec qui a fait ce qu'on lui a dit de faire et qui revient complètement détruit. Il revient sous la forme d'un
vagabond.
D'un vagabond, d'un SDF. D'un gars qui sait pas trop où se poser, donc il arrive à pied dans une ville. Il y a cette image de l'étranger qui arrive à pied dans une communauté qui est déjà censée être bien intégrée, bien cadrée, toutes les rues sont bien alignées, bien propres. Et lui, il vient mettre le bazar, mais c'est pas de sa faute s'il vient mettre le bazar, c'est que les gens le rejettent.
Il est de passage.
Il est de passage. En fait, il arrive et la première personne qu'il voit, c'est un flic qui décide de le ramener à la sortie de la ville en lui disant
non, t'es bien gentil, mais on veut
pas de toi, quoi. Alors que lui, il comprend pas. Il s'est battu pour son pays. Il revient, on le rejette. Alors que éventuellement, les gens auraient peut-être dû rejeter la politique qui a mené à cette guerre du Vietnam et pas les gens qui l'ont et pas les gens qui se sont battus. Donc c'est toujours un peu compliqué. On est dans cette période d'après Voyage au bout de l'enfer, qui suit le même thème, exactement. Par contre, donc là, voilà, Rambo, il peut pas. Il peut dire, bah non, mais moi, mon droit, c'est de passer dans cette ville, de m'arrêter, peut-être d'y vivre ou pas d'y vivre, c'est mon droit. Et il retourne en ville, et là, évidemment, ce qui arrive, arrive. C'est le début, il se refait arrêter et ça réveille en lui tous les traumatismes de la violence parce qu'il est...
Il est traumatisé.
Il est passé à tabac gentiment dans le commissariat et ça réveille une sorte de bête. Il y a un petit côté Hulk.
Oui, complètement.
Voilà, qui est réveillé. Et donc du coup, il s'enfuit du commissariat. Je crois qu'il est pieds nus même, il me semble.
Je sais plus.
Je sais plus. Il s'enfuit et il se cache en forêt. Et la seule réponse de la société, c'est de le poursuivre. C'est de le poursuivre. Le flic a un ego tellement
démesuré
que voilà, il peut pas accepter qu'on lui qu'on lui échappe finalement, quoi, et qu'on rentre pas dans le cadre. Donc du coup, il le poursuit alors qu'il suffisait juste de dire bon bah c'est pas grave, c'est un vagabond,
on va laisser partir. Laisser faire.
Et donc là pour le coup, ils arrivent sur le terrain de Rambo lui-même. Il est en forêt, il connaît toutes les techniques, le combat. Et c'est là que le film, ça,
en milieu hostile, et
voilà, ça redevient là beaucoup plus violent parce que en fait il se défend.
Il va répondre à la violence.
Par la violence extrême. Et donc, on l'a déjà dit dans l'émission sur en partie sur Stallone qu'on a faite. Dans le film, il n'y a qu'un seul mort, un seul. Et c'est même pas Rambo qui le tue. Il le tue par une. Il y a un aspect d'autodéfense là-dedans. Et c'est très étonnant de voir ça parce que on a l'image d'un Rambo qui dessoude
la moitié d'une armée. Il est beaucoup plus aseptisé qu'on le pense. Ouais.
Voilà, c'est aussi un roman.
Oui, c'est un roman.
Très très beau roman de David Morrell qui lui par contre, si vous lisez le roman qui est tout aussi intéressant, vous voyez bien que le personnage de Rambo n'est pas décrit de la même façon à l'écran que dans le livre. Dans le livre, il est beaucoup plus violent. D'ailleurs, le final du livre est totalement différent que du final du film, qui est Stallone qui a demandé, alors spoiler, ça on va pas se
oui, oh, je pense que
qui a demandé à ce que le personnage vive. Voilà. Pour montrer que finalement la société elle a pas eu raison de Rambo. Ça aurait été plus simple effectivement que le personnage meurt, c'est fini, problème réglé, il y a eu un petit bourgeon de violence et puis la société a réussi
c'est,
à la planer.
Ouais, c'est fini. Non, c'est
là,
bien.
Non. C'est pas parce fini, que il est toujours là.
Ce questionnement reste
Il faut toujours le gérer ça, ouais. Même si on remet la poussière un peu sous le tapis, le risque c'est que ça revienne quoi.
Alors la suite de la saga n'est pas du tout sur la même ligne.
C'est pas du tout sur la même ligne. Rambo, il est quelque peu racheté par un courant conservateur qui avec l'aval de Stallone finalement, et qui en fait un film, un personnage d'action presque de vengeance. C'est-à-dire
interventionniste.
Voilà. L'Amérique a perdu au Vietnam. Ils se sont retirés. Il va rechercher des prisonniers. Bon, en gros, il va finir le travail. Quoi. Il va pas que sauver des prisonniers américains. Il va
dessouder du méchant.
Il va dessouder du méchant, histoire de montrer que si on nous avait laissé faire, en gros, nous, les soldats, on l'aurait gagné cette guerre.
C'est un discours assez nauséabond, ouais. Et c'est là où la saga elle est intéressante. C'est vraiment la dichotomie entre le premier et la suite. Quoi. On a vraiment deux pans. On pourrait dire qu'on a deux personnages.
Le film il sort en 82, le premier film, et on sent que c'est un film de la fin des années 70. Mm-hmm. Une sorte de film de contestation. Mm-hmm. Alors que tous les films qui viendront après.
On est dans l'actionneur bourrin.
Voilà, dans l'actionneur bourrin très décérébré et qui est de plus en plus.
Porte-étendard.
De plus en plus nauséabond, je trouve.
Mmh. Ah, ouais, complètement.
Avec un dernier qui est incompréhensible,
ouais.
Contre les cartels mexicains.
Ouais.
Où on sent que là.
On sent qu'à la fin, il pourrait prendre lui-même les parpaings et faire le mur de Trump, en fait.
C'est ça, c'est ça.
On pourrait.
C'est exactement ça.
On voit très clairement sur quel.
Alors que quelque part, il s'en défend. Fibre.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Que publiquement, il s'en défend, mais. Ce qu'il dit dans les films,
ouais.
Inconsciemment, c'est ça qui est raconté. Quoi.
Soit c'est très peu subtil, soit vraiment, ouais, des fois, il prend les spectateurs un peu pour des idiots.
Donc, je vous engage à redécouvrir le film. Il est disponible sur des VOD. On peut aussi l'acheter en DVD. Il y a une version 4K uniquement du premier film, qui, je pense, est la vraie façon de le trouver. Le packaging est super beau. Si vous aimez les objets, nous on adore les objets, on l'a déjà dit précédemment, si vous aimez les objets, c'est très joli. C'est un peu élevé, mais bon...
Un bel objet.
Très bel objet. Par contre, voilà, évitez de vous acheter la trilogie, la quadrilogie, la cinquagologie, je ne sais même pas comment dire,
intérêt.
Ça n'a pas grand intérêt. C'est rigolo à regarder comme ça. Mais il faut le prendre avec le vrai 2-3e degré et savoir comment le lire. Et en plus, acheter le livre, qui est trouvable en poche, on peut l'acheter pour 8-10 euros. Très intéressant de lire ça. Quoi.
Pour information, l'auteur du livre a fait une adaptation en comics de Captain America.
Ah.
Et c'est très intéressant de voir sa vision. Il y a un album unique, voilà, qu'on peut trouver facilement sur.
Oui, donc une histoire unique.
Un tome unique. Et sa vision du personnage de Captain America est assez intéressante. Justement, oui, il est un peu à contre-courant sur le côté patriotique décérébré du personnage, qui n'a jamais été le cas, mais du coup, lui, voilà, il enfonce le clou et c'est vraiment très intéressant.
Voilà.
La boucle bleue.
Voilà, c'était mon Rambo.
Merci Thomas.
C'était mon préféré. Allez, de retour à rentrer en fête à Orléans, sur la place du Martroi. Alors, si vous nous écoutez et que vous venez maintenant, bah, c'est fini, c'est trop tard. Hein, mais bon, on vous laisse dans l'ambiance. Il fait beau, il fait chaud, on est là pour discuter de ciné. Et c'est le chef.
Bien sûr.
C'est le chef qui est sur le grill maintenant.
Bien sûr.
C'est notre Moi Stallone. Alors, comme on a parlé avec nos autres chroniqueurs, on va demander à l'équipe de nous sélectionner son Stallone préféré. Ouais. Son film de Stallone préféré. Alors, Romaric, c'est quoi?
Alors c'est surprenant parce que c'est vrai qu'au départ, quand on parlait entre nous, il y avait trois équipes qu'on imaginait sélectionner, ou Rocky, ou Rambo, ou Copland. Et en repréparant l'émission et avec tous les sons qu'on a fait dans les semaines précédentes, moi, les Faucons de la Nuit, j'en avais pas un autre très bon souvenir.
Ben oui.
Je savais que c'était une bonne série B, mais le fait de le revoir aujourd'hui, je trouve que c'est un polar.
Alors, c'est quoi les Faucons de la Nuit ?
Les Faucons de la Nuit, c'est un polar très intéressant, début des années 80. Et là où Stallone a été très malin, c'est qu'il a vraiment capté quelque chose qui se passait dans la montée du terrorisme à l'époque, qui était très différent de celui qu'on a connu avec Daesh, mais un terrorisme politique, revendicateur, qu'on va retrouver avec des méchants comme Hans Gruber, par exemple, d'Europe de l'Est, d'Allemagne de l'Est, où il faut libérer des mecs en prison. Des gars qui vont monter des plans plus improbables les uns que les autres. Et là, on a donc Roger Hauer,
le grand
terroriste, qui est vulgaire, mais qui est un terroriste très crédible dans sa représentation, dans le sens où il tue tout le monde sans finalement des revendications très profondes.
C'est ça.
Il demande à libérer des gens, mais il est prêt à mourir et il est prêt à monter des plans plus dingues, plus stupides les uns que les autres. Parce que c'est quelque chose où il est prêt à ne pas survivre. Il y a un moment donné une scène de fusillade où Roger Hauer est reconnu par Stallone, qui joue un policier de l'ombre en fait, hein, dans le New York très violent des années 80, c'est-à-dire le New York qui est le Gotham, qui a été dérivé de ce New York-là, pas le New York touristique de nos années.
Ah non.
Et dans ce New York très sombre, Stallone joue un flic d'un service assez obscur en gros. Il mène des filatures, il n'est pas agent de la circulation, mais il est quand même très marginalisé et il va monter des enquêtes en se grimant, en se déguisant, avec très peu de moyens. Donc il y a un côté très, j'hésite pas à faire le parallèle, très L627 là-dedans.
Ah oui, oui, excellent.
Où il a pas du tout de moyens et il doit faire avec. Et il joue vraiment le flic obscur qui ne sera pas le bourrin de Cobra, qui est devenu un véritable nanar. Et je pense que c'est vraiment le pendant positif de tout ce que Cobra a montré négatif, c'est les Faucons de la Nuit. J'adore ce film maintenant, je peux le dire, parce que je trouve que Stallone a fait ce qu'il aurait dû faire beaucoup plus longtemps dans sa carrière pour moi. Il est en sous-jeu total dans ce film-là, et il a un charisme incroyable. Grosse barbe à la Serpico, comme on avait parlé dans le premier épisode avec Nicolas, il y a évidemment cette influence-là qui est très présente. Il a toujours eu un rapport, je dirais, à se minorer par rapport aux grandes légendes que sont De Niro et Pacino, forcément dans son parcours. Mais là, pour moi, il en est à ce niveau-là. Et c'est vraiment un film qui m'a marqué en repréparant l'émission, donc c'est pour ça que moi, c'est tout ce que je souhaite à nos auditeurs, c'est découvrir ce film-là, parce que pour moi, sincèrement, Rocky et Rambo sont emblématiques, mais les Faucons de la Nuit, il a réussi ce qu'il a fait dans tous les films où il a eu du succès. Le sous-jeu, un script fort, un méchant emblématique, un film avec des angles magnifiques, le premier plan des Faucons de la Nuit, c'est exceptionnel,
oui.
Une technique qui a été utilisée par Orson Welles,
oui, qu'on
a déjà évoqué dans l'émission. Et c'est un film qui vieillit très très bien et qui pour moi mérite en tout cas d'être à ce niveau là. Et pourquoi moi c'est son plus grand rôle, parce qu'il n'est pas chargé de tous les à côté de Rocky, le rêve américain, Rambo, le vétéran du Vietnam. Il n'y a pas tous ces à côté qui viennent un peu parasiter l'analyse et la vision de ce film là donc on est dans du pur cinéma et dans la pure projection, le pur plaisir d'apprécier un vrai comédien. Voilà.
Eh ben parfait. Bon, alors moi je suis obligé de te dire que t'as tort parce que j'ai pas choisi ce film là, mais sinon voilà, c'est très bonne analyse, voilà, on est d'accord avec toi, mais pas trop.
Tout à fait. Voilà. Nighthawks, hein, de Bryce Malmuth.
Nighthawks,
parce qu'il faut savoir que ce film est réalisé par un mammouth,
voilà.
Qui a pris un pseudo pour l'occasion. Et ce Bryce Malmuth, en tout cas,
moi, il avait beaucoup d'assurance.
Il avait beaucoup d'assurance et puis
Malmuth assurance.
Malmuth assurance.
Voilà, très drôle.
Alors, on va s'arrêter là.
on vous embrasse.
Cette capacité à toujours être gênant à chaque fois qu'on parle de cinéma.
Très bien.
C'est fantastique. Oui, exactement.
On vous embrasse, bisous.
Bisous. Je refuse de causer avec vous. Faites venir les caméras ici tout de suite. Allez, faites-les venir.
Hors de question.
Arnaud, on te présente plus dans le cadre de l'émission, mais on va quand même le faire pour nos auditeurs qui te découvriraient, qui auraient le plaisir de te découvrir. Alors Arnaud, ce qui est intéressant, c'est que tu es un grand, grand fan de pop culture et de cinéma, et on a eu l'occasion, il y a plusieurs saisons déjà, de te faire à plusieurs reprises participer à l'émission, parce que c'est vrai que enfin connaisseur, on peut le dire, tu es vidéaste, comédien, tu réalises tes films, tu écris, tu scénarises, et puis tu as eu l'occasion également de jouer dans énormément de films. Tu as une passion pour le Batman qui est indétrônable, ce qui nous avait amené à faire beaucoup d'émissions sur le sujet, mais on t'a connu pour cette passion-là, mais tu es passionné par énormément de sujets en pop culture, et c'est pour ça qu'on a le plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler bah, évidemment de Stallone, parce que la dernière fois qu'on t'a vu, on peut le citer à nos auditeurs, hein, c'était dans une émission sur la Rambo Exploitation, justement, sur tous ces films qui utilisaient l'exploitation de l'image de Rambo au cinéma et pour faire des sous-Rambo. Et donc ouais. Là, évidemment, dans cette émission, ce mois Stallone, où on essaye de découvrir le meilleur film, on voulait évidemment avoir ton avis, on est très content de t'avoir. Alors moi, je voulais tout simplement te demander, pour la première question, Arnaud, si on te demande dans toute cette très riche filmographie de Stallone, le meilleur film pour toi qui ressortirait, si tu devais en sortir un en premier, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup, mais pour toi, ça serait lequel ?
Moi, alors, c'est pas, peut-être pas le meilleur, mais c'est un coup de cœur et qui est assez rare et puis qu'on mentionne pas assez, c'est Les Faucons de la Nuit, Nighthawks. C'est un polar version French Connection, mais avec beaucoup plus d'action. French Connection était basé sur de l'enquête, c'était plus documentaire. Là, on est plus sur de l'action, sur une intrigue avec un suspense jusqu'au bout et puis un final voilà, qui nous tient en haleine. Hein. Et franchement, c'est du top, c'est de l'époque, avec des titres comme Brown Sugar, la fameuse scène de la boîte de nuit avec les Rolling Stones. Donc, un moment tout simplement culte. J'ai vu pour la première fois, j'étais tout gamin, gros moment pour moi, c'était énorme.
Moi, ce que je voulais questionner aussi là-dessus, c'est que en tant que comédien, moi je trouvais que ce qui m'intéressait, je l'avais dit aux autres, c'est que je trouvais qu'il était en sous-jeu dans ce film-là, qu'il était vraiment en rétention par rapport à ce qu'il avait pu faire avec Rocky par exemple, où il était très expressif, ouais. Surexpressif, alors qu'on sait que Stallone, il a jamais été forcément à l'aise quand il devait être hyper expressif dans la comédie.
C'est plus de la testostérone, des muscles, de l'action. On le verra prochainement dans Expendables 4, ce qui va sortir le 11 octobre, le mois prochain. Stallone, c'est plus ça. Mais il est capable d'être comédien. Moi, il m'a fait pleurer dans les Rambo, notamment le dernier, là, oui. Le cinquième, qui a été très critiqué, pourtant, pour moi, qui est vraiment bien, qui complète parfaitement la saga, tout comme John Rambo, sorti en 2008. Stallone, c'est un comédien, un truc comédien. C'est comme Jean-Paul Belmondo le dit dans une interview au moment de la sortie du Solitaire, où il était en représentation pour la pièce de théâtre King, en 87. Et il le dit, ah, il joue pas la comédie, c'est que des coups de poing. Si, bah, ça fait partie de la comédie, il y a du dialogue, il y a un peu de tout, il y a de l'émotion qui ressort. Donc, c'est différentes palettes, différents styles. Puis Stallone, voilà, c'est des similitudes, c'est des films qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ça manque ces films-là, ce polar. C'est ce que je fais ressortir dans mes films, d'ailleurs, dans mes petits films, style Lieutenant Brady. D'ailleurs, que je me suis inspiré du film Le Solitaire de Belmondo, qui était sorti en 87, film que j'ai sorti en 2014, Lieutenant Brady, et puis inspiré aussi des Faucons de la Nuit, la fameuse séquence où Billy Dee Williams, qui joue le Lando dans Star Wars. Au combat de dernier Star Wars, l'épisode de l'Empire contre-attaque et Retour du Jedi, on se voit un moment, ils se font tailler la joue par Roger Ware. Oui. T'es mort, Rougar, t'es mort, Ordure, je vais te tuer, Ordure. Et cette séquence-là, je l'ai reprise dans le. Il y a une certaine intonation, une certaine émotion, et une rage qui ressort. Et Stallone, tout petit, bah, il faisait des conneries, il allait chez les gens, il cassait tout, il se battait avec ses camarades. Et il a ressorti cette énergie dans ses films d'action.
Oui, tout à fait. Alors, tu cites Les Faucons de la Nuit comme son meilleur film, mais est-ce que, à ton avis, c'est aussi son meilleur rôle? Parce que c'est vrai que pour moi, il y avait un distinguo. C'est-à-dire que si je dois citer le meilleur film, celui où je l'ai préféré, je vais citer Les Faucons de la Nuit, mais c'est vrai que son meilleur rôle, moi pour le coup, évidemment, je dirais plus pour rester dans cette logique de sous-jeu vers Rambo, où il était vraiment dans quelque chose d'intérieur. Mais ceci dit, c'est que moi, est-ce que toi tu fais le distinguo entre meilleur film, meilleur rôle? Est-ce qu'il y a Copland par exemple, qu'on peut citer, qui est souvent cité comme un meilleur rôle?
Copland qui a un contre-emploi, parce que c'est un Stallone bedonnant qui a pris 20 kilos de 20 kilos de gras. Il est sourd d'une oreille dans l'histoire, Freddy Heflin. Il est pris pour un con par les gars qui ont percé dans la police de New York. Lui, il a pas pu y aller parce qu'il est sourd d'une oreille. Il a ce petit poste de shérif. Il y a De Niro qui va lui venir en aide. Il y a tout un casting, toute une histoire. Ce film est fort, très fort. En plus, avec la VF de Richard Darbois, puisque c'est Richard Darbois qui prête sa voix dans ce film et qui a prêté sa voix dans de nombreux films, Tango et Cash en 89, Demolition Man, Assassin et Gad Carter aussi. Oui. Donc, en lieu et place d'Alain Dorval.
Oui, c'est bien de rappeler les acteurs, les comédiens de doublage aussi, parce que c'est vrai que c'est souvent Alain Dorval qui était attitré à Rambo.
Alain Dorval, oui, Stallone. Rocky, Rambo, voilà, ouais. Cette voix cassée, cette voix rauque. Et puis Alain Dorval est un acteur complet, hein, ouais. Tout comme Richard Darbois, qui sont capables de prêter leur voix à d'autres personnes. C'est pas des imitateurs, parce qu'il a été souvent comparé à Stallone, c'est pas des imitateurs, ce sont des acteurs, c'est leur métier.
Ça m'amène, parce que tu parles de ses rôles à Stallone, et notamment les Faucons de la Nuit, où il se met. C'est pas Monsieur Musc, il a une vraie sensibilité, puis il se met vraiment comme quelqu'un de Monsieur Tout le Monde, quelqu'un de la vie de tous les jours. Pourquoi ce comédien, à ton avis, parce qu'on le sait, il a été plutôt vu comme réactionnaire souvent sur beaucoup de rôles en France. On sait que en France, on s'attendait pas forcément. Bah tiens, je peux aussi te poser la question, c'est que quand on voit Rocky Rambo, on pourrait s'attendre qu'il soit situé sur l'échelon démocrate aux États-Unis, puis au final, on s'aperçoit que c'est quelqu'un de républicain, qui a souvent vu des films très conservateurs. Pourtant, Bon, après, il a l'idéologie qu'il veut, hein, c'est, ça le regarde. Mais pourtant, malgré ça, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu énormément d'empathie vis-à-vis de ce comédien. Comment tu peux l'expliquer, ça, par exemple? Il a souvent été le défenseur, hein, pour résumer, de causes parfois très conservatrices, mais il a toujours gardé une énorme empathie, une grande cote de popularité en France, de sympathie en France. Est-ce que c'est seulement lié à tout ce qu'il met d'humain dans ses rôles et tout ce qu'il ramène dans ses rôles?
Ah, parce que Stallone, déjà, d'une première part, il apporte du rêve dans ses films, voilà, un style de film qu'on ne voit plus, malheureusement. Bon, bah, il vieillit comme tout le monde, il est pas loin des 80 ans. Bon, mais on a toujours à cœur de regarder, bah, je pense notamment, on parle de politique, Rocky IV. Où c'était le bloc de l'Est, l'URSS face aux Américains, voilà, il y a ça. Avec tout le monde peut arriver à changer. Il le dit, il l'explique. Il y avait cette guerre froide. On sortait toujours de la guerre froide. C'était encore un peu, là. Il y avait encore un peu la fumée qui peinait à se dissiper de cette époque. Et ouais, Stallone. Après, le gars peut être de droite mais avoir des idées de gauche. Enfin, en politique, c'est très compliqué. Mais en fait, lui, à travers ses films, c'est du rêve. C'est vendeur. J'aime pas parler business. J'aime pas parler de ça parce que c'est du business à la base, de cinéma aussi. Malheureusement, show business, d'où le terme. Mais je veux dire, c'est le voir avec toutes ses mitraillettes de Rambo, le mec il va tirer 250 cartouches, il ressort jamais, il en met plein la gueule. Le film d'action, c'est ça, on en prend plein la tronche avec une grosse musique, avec des gros scénarios, mais c'est pas grave, on passe un super moment, on passe un divertissement, on s'éclate, du rêve, du bonheur. Le cinéma, c'est ça. Et Stallone, en fait, c'est un meneur à ce niveau-là.
Bon, il a évidemment une grande cote de popularité dans le monde entier, mais il y a ce côté très citoyen du monde et très bas du. Stallone a très souvent joué des hommes du peuple, ce qu'a très peu fait Schwarzenegger. C'est aussi ça, je me demandais, cette capacité qu'a eu Stallone à se rappeler de ses notices biographiques, comme tu le citais, où il faisait beaucoup de bêtises. Et d'ailleurs, dans Rocky, c'est très suggéré, puisqu'on voit que c'est un homme de main de la mafia qui casse des bras pour les dettes impayées.
Joe Spinell, qui nous a quitté en 1989, qu'on voit dans Les Faucons de la Nuit, qui joue son supérieur, Monaco.
C'est vrai que cette capacité qu'il a eu à faire venir ses amis sur les tournages, elle est conservée très longtemps. Alors on sait que Joe Spinell, malheureusement, ils se sont disputés, mais quand on prend Armand Assante ou d'autres personnes, il a créé vraiment une clique de comédiens qu'il a amené avec lui. Il a amené le grand public à s'intéresser à des sujets comme la boxe, des bas-fonds qui est pas très bien connu avant Rocky. Et comment pour toi, ça profite à sa cote de la grande générosité en fait qu'il met dans tous ses projets?
Voilà, c'était au départ, Stallone. Alors son début de carrière, ça a été assez compliqué, parce qu'on le voit dans l'Italien en 70, hein, un film érotique, on le voit les fesses à l'air, passer un coup de fil, draguer des nanas, voilà, il y a rien de. Il avait touché un petit cachet de 100 et quelques dollars, je crois, 200 dollars, un truc. Et à l'époque c'était énorme, mais aujourd'hui c'est tout petit. Mais bon, c'était. Entre temps, il a connu la galère, il a fallu qu'il vende son chien, Butkus, il a proposé le scénario à Wayne Winkler, Robert Chartoff. Il y a eu tout un cheminement dans des petits rôles comme dans Bananas, ou dans Une rame de métro, il joue un loupard qui a deux doigts de casser la tronche à Woody Allen, et la séquence elle est marrante. Elle est disponible sur YouTube. On le voit dans Les Mains dans les Poches, on le voit dans Capone. Enfin, il y a pas mal de petits films. Aussi avec qui est marrant aussi là. C'est une vraie tête de con dans ce film. Désolé de vous dire, mais j'adore. C'est avec Frankenstein qui est joué par David Carradine, les Seigneurs de la Route, la course à la mort de l'an 2000, qui est excellent là-dedans. Ouais. D'ailleurs, il est doublé par Bernard Murat, qui est la voix de Richard Dreyfus dans Les Dents de la Mer. Quand on écoute bien. Il a monté en puissance petit à petit, Rocky, quelques films entre deux comme La Taverne de l'Enfer ou les managers de son frangin qui vient catcher, qui monte sur le ring et qui pas des saucissons autour du cou, c'était vraiment quoi. Voilà, donc il y a eu pas mal de choses et petit à petit Rocky a fait que il a monté en puissance et c'est le rêve américain. C'est le rêve américain, c'est le rêve, voilà, il apporte du rêve comme on l'a dit dans la question précédente. C'est ça Stallone, c'est pour ça qu'on l'aime, les films qu'on sait que maintenant il a pas loin de 80 ans, mais on continue à regarder des films tels que Cobra, des films, des gros scénarios, de la grosse action, des gros polars, mais c'est pas grave, on s'éclate, on s'amuse avec ça, et c'est du top, et c'est ce qui inspire les gens comme moi à faire des petits courts-métrages, des trucs policiers, des trucs d'action, faire ressortir cette époque, et on en a besoin, parce qu'aujourd'hui, l'époque, elle est pas belle.
Un grand merci, en tout cas, Arnaud, parce que c'est vrai qu'on veut vraiment parler avec toi, et c'est important, en tout cas, de parler de Stallone, et on aura évidemment le plaisir de te réinviter dans le cadre de l'émission, pour toujours évoquer ces thèmes de cinéma, de pop culture, et
avec
de
grand plaisir.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Pourquoi vous faites ça?
Je fais hyper bien les bisous, moi. Je suis très bisous.